nous sommes invités à suivre Xavier Martinet dans le Petit Salon. Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Bon, mi-juin, je vois pas pourquoi, mais avec vous, ce soir, on va à l'école.
Oui, on va à l'école de théâtre. Et pourquoi ? Parce qu'elle s'ouvre de plus en plus, ces écoles de théâtre, notamment les écoles publiques de théâtre. Elles sont 13, ces grandes écoles publiques. C'est ce que recensait Benjamin Roure dans Télérama il y a 10 jours. 3 en région parisienne. Je vais pas toutes les citer. Il y en a 2 à Paris, 1 à Asnières. Il y a l'école de Strasbourg, l'école de Lyon, l'école de Rennes, celle de la Comédie de Saint-Étienne, de Cannes, de Montpellier, de Bordeaux, de Limoges, de Lille et d'Agen, finalement. 13 écoles, donc supérieures de théâtre à diplôme national, qui préparent en 3 ans à tous les aspects du métier, et bien sûr d'abord celui de comédien. Or, si leur répartition, vous l'avez entendu, ne témoigne pas forcément d'une volonté de quadrillage du territoire, leur politique est en train de changer. Depuis quelques années, ces écoles auraient ainsi trouvé une nouvelle jeunesse et capacité d'ouverture d'école ascenseur pour les très tôt, disait ainsi Télérama, et ceci grâce à une nouvelle génération de directeurs et un nouveau parti pris pédagogique, disons moins académique. En tout cas, c'est ce qu'avance en partie Arnaud Meunier, qui est le directeur depuis 2011 de l'école de la Comédie de Saint-Étienne, où dès la deuxième année, là, les élèves travaillent sur leur propre production. Nous formons des acteurs créateurs, dit Arnaud Meunier, à la fois interprètes et porteurs de projets. Ils ne doivent pas être de simples objets au service du metteur en scène, mais actifs dans l'écriture au plateau. En cherchant ces dernières années, on trouve d'ailleurs cette nouvelle génération de directeurs assez fréquemment née dans les années 60-70, particulièrement proche de la nouvelle scène théâtrale européenne et qui a eu, semble-t-il en tout cas, pour mission de renouveler l'enseignement du théâtre. Ce sont par exemple Stanislas Nordet au TNS de Strasbourg, donc depuis 2014, un peu un modèle du genre hein, selon Rue 89, qui disait d'ailleurs à l'époque être venu plus pour l'école que pour le théâtre. Il y a aussi l'école du théâtre de l'Union à Limoges qui est dirigée par Jean-Lambert Wildt depuis 2015. Alors le premier à Strasbourg, plus résolument contemporain que l'autre à Limoges, mais tous les deux témoignant d'un souci d'ouverture renouvelée, soit dans le recrutement des élèves, soit dans les collaborations nationales ou internationales. L'année dernière, d'ailleurs, Télérama remarquait ces écoles de théâtre qui veulent mettre plus de diversité sur scène grâce à une adaptation du recrutement et des concours, notamment plus fins et moins académiques. Par exemple, une classe prépa à l'école de Saint-Étienne ou ce fameux dispositif premier acte qui est mise en œuvre notamment au TNS, mais pas seulement, également à Cannes, en partenariat avec la Grande Banque Rothschild ou la SNCF pour permettre à de jeunes acteurs, je cite, « ayant fait l'expérience d'une discrimination, de venir jouer au moins 2 semaines en atelier ». J'ajoute, concernant les écoles privées, qu'elles sont 7, qu'elles proposent toutes des années environ 5000 euros, avec pour certaines des méthodes là de jeu bien identifiées, comme l'école du jeu, justement, par laquelle est passée, je le souligne, Garance Marillier, qui est l'actrice principale de Grave et qui, elle, prépare en ce moment l'école de Strasbourg. L'ouverture, donc, semble la règle. C'est le cas aussi, pour finir, du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. Il faut en parler, parce que c'est un peu un cas d'école. Avant la nomination de sa directrice Claire Lannes à sa direction en 2013, l'Institut était en effet miné par une longue polémique sur la pédagogie et la politique de son ancien directeur, le comédien Daniel Mesguich, évincé donc avec à la fin une lettre très dure des élèves au ministère de la Culture, qui dénonçait, je les cite, une école coupée du monde et une méfiance envers le contemporain, donc un peu tout le contraire de ce qu'on évoquait avec Strasbourg. À l'époque, les élèves tremblaient devant ce qu'on appelait la méthode Mesguich, là c'était encore Télérama qui le disait en 2009. Aujourd'hui, c'est le premier concours, j'en ai passé plusieurs, et où j'ai montré quel acteur je peux être. Il n'y a plus ici de profil dominant ni d'emploi type, et les élèves sont sans doute de la matière plus brute qu'autrefois, rapportait un des élèves. Voilà, vous l'avez entendu, ouverture, voire discrimination positive, qui ne va pas sans tiraillement, note encore Télérama en 2016, l'été dernier. Les lettres des élèves recalés au concours à Stanislas Nordet à Strasbourg en témoignent, qui répondaient un peu agacés. Leur souci était de savoir si, à qualité égale, et s'ils avaient été noirs, ils auraient été recalés quand même, raconte le metteur en scène un peu amer, on l'entend. Cela ne les a sans doute pas dérangés, que pendant des décennies, continue-t-il, le recrutement soit monocouleur. Alors, quelle autonomie donnent ces écoles aux élèves? On pourra en reparler, mais la question est celle-ci. Cette ouverture, si elle existe, effectivement, vous semblait-elle nécessaire ?
Ah bah, nécessaire. Alors nécessaire, oui, bon, je le dis tout de suite comme ça, pour parler de ce que fait Claire Lane d'Arcueil au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Elle ne souhaite plus s'exprimer sur cette question, puisque l'école parle pour elle, c'est aussi une forme de réponse. Précision aussi pour dire que Stanislas Nordet a été très longtemps directeur de l'école du Théâtre National de Bretagne, avant d'être directeur du TNS et donc de l'école du TNS. Et donc il y a vraiment déjà beaucoup de comédiennes et comédiens, ou apprentis, comédiennes et comédiens qui sont passés par son enseignement. Alors comme Télérama a été extrêmement cité, Fabienne, ascenseur pour les Tréteaux, c'est vous qui l'aviez trouvé ce beau titre.
Ce titre magnifique.
C'est beau, hein.
Oui, et puis on avait pas mal évoqué aussi l'opération Premier Acte, qui a quand même été formidable, hein, dans toutes les écoles que vous avez évoquées, Xavier, et au conservatoire en partie, au TNS, à la Comédie de Saint-Étienne, à Cannes, etc. Moi, ça me semble effectivement, c'est le nerf de la guerre, d'ouvrir à la diversité, d'ouvrir à de jeunes comédiens qui ne se sentent même pas le droit. C'est vrai que le rôle des comédiens noirs, on hésite tellement à leur confier des rôles qui ne soient pas marqués que c'est terrible pour eux. Ils s'auto-censurent. Donc ce qu'il faut, c'est les pousser à oser. Mmh. Et donc que ces écoles fassent ce geste pour déjà leur dire que ça ne leur est pas interdit, c'est formidable, c'est formidable. Maintenant, alors ça progresse un petit peu, quand même à la Comédie française, quand il y a ce magnifique acteur noir qui sort de chez Peter Brook, comme par hasard, dans Hôtel du Libre-Échange, il fait quand même le rôle du domestique. Hein, bon, ça va, espérons que ça bouge de plus en plus et que bientôt cette diversité soit présente aussi à la direction de nos théâtres. Ce qui n'est pas le cas. Déjà, on peine à les voir sur scène, mais la prochaine étape, c'est qu'ils dirigent les lieux.
Oui, on peine déjà à voir des femmes diriger des lieux. Hein.
C'est sûr. C'est... Mais enfin, ça commence quand même.
Oui, nous sommes d'accord. Et c'est heureux. Mais enfin, c'est la question après de la discrimination positive qui est un immense débat.
Un immense sujet. Je pense qu'il faut en passer par là.
Non, mais c'est un débat. En tout cas, concernant Bakary Sangaré à la Comédie française, c'est vrai qu'il est souvent soit des rôles de bonimenteur, soit... Alors, j'ai pas encore vu l'Hôtel du Libre-Échange que je vais voir bientôt, mais ce qui est bien aussi, c'est de voir, comme c'était le cas à l'Odéon, il y a peu dans l'Hôtel Feydeau. Soudain l'été dernier, c'est peut-être davantage le rôle, celui du docteur, c'est peut-être plus possible, quoique anachronique, le fait
est. Peter Brook
depuis très longtemps. Il ne faut pas attendre que ce soit Othello pour distribuer l'acteur noir qui est dans le paysage. Il faut que tous les emplois sont possibles pour toutes les personnes. Et là, on dit noir, blanc, on parle de tout type de diversité, y compris corporelle. La diversité, ce n'est pas juste noir et blanc. On le réduit souvent à cela. C'est loin d'être le cas. Elisabeth Franck Dumas.
Non, je vais beaucoup vous étonner, je suis d'accord avec vous. Évidemment, on a un retard énorme d'ailleurs par rapport aux pays anglo-saxons, notamment l'Angleterre, évidemment, on va mettre une actrice indienne dans le rôle d'Ophélie, un acteur noir dans le rôle du Roi Lear. On ne se pose plus ce genre de questions. C'est vrai qu'en France, c'est un petit peu honteux. Vous avez parlé de Premier Acte. Je crois aussi qu'à l'école de la Comédie de Saint-Étienne, il y a une prépa intégrée. Il y en a une aussi à Bobigny qui prépare associée à la MC 93. Ça se multiplie, évidemment, on ne peut qu'applaudir. En revanche, je crois que Premier Acte, c'est un détail, mais c'est soutenu par la Fondation Rothschild.
La
Fondation SNCF aussi.
Qui ont toujours été, je crois que c'était eux qui étaient assez moteurs. Ils ont joué un rôle admirable. Libération avait modestement aussi fait un reportage. Frédéric Roussel avait assisté à pas mal de ces... Ce qui est intéressant dans ces séances d'enseignement Premier Acte, on fait venir énormément d'intervenants, metteurs en scène, chorégraphes, des gens du métier pour apprendre à ces classes qui sont finalement assez réduites. Je crois que c'est une quinzaine d'élèves, et c'est le moyen idéal pour les encourager à se présenter. Je crois que dans l'article que vous citiez, Arnaud Meunier disait que Stanislas Nordet posait la question du niveau. Parfois, on peut se dire que tel ou tel comédien n'a pas encore acquis la technique parce qu'il n'a pas eu l'occasion d'acquérir cette technique, mais on voit qu'il y a quelque chose et qu'il faut l'encourager. Et heureusement que les écoles favorisent ce genre de profil.
Xavier Martinet.
Oui, oui, juste un point concernant la question de la lutte anti-discrimination. C'est vrai qu'elle a aussi lieu sur le plan discrimination sexuelle et que pour le coup, je crois qu'au théâtre, à l'école du théâtre national de Strasbourg, là où on a des classes de 12 élèves dans la section jeu, précisément Stanislas Nordet a à cœur de mettre ensemble 6 filles, 6 garçons pour être bien sûr qu'on ait cette parité respectée. Il me semblait, au-delà de cette question, enfin ça va ensemble d'ailleurs, je pense, qu'il y avait effectivement un travail de fond aussi sur la pédagogie qui avait été fait. Je l'ai évoqué assez rapidement. Il se dessinait déjà, là c'était très clair, dans ce qui se passait au Conservatoire National de Paris, avec notamment cette question de l'ouverture à la scène européenne. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais tous ces metteurs en scène qui sont devenus directeurs de théâtre et d'écoles de théâtre ont un lien privilégié avec effectivement cette scène européenne. Ça me semble un peu le problème, un problème assez similaire à celui qu'on avait avec le théâtre de Vidi, à savoir une institution plutôt bien ancrée avec un certain académisme. De quelle manière, dans quelles conditions doit-elle s'ouvrir à cette scène complètement exubérante, enfin depuis 10 ans maintenant, qui parcourt l'Europe et qui arrive un petit peu tard peut-être en France?
Vaste question.
En ce qui concerne les écoles, il y a un réel effort depuis peut-être 10 ans ou un peu moins pour multiplier les échanges, et pas seulement avec le reste de l'Europe, avec le reste du monde. Christophe Rauch a récemment emmené sa classe
à Moscou.
Chez les Fomenko. Et il y a eu un partage, je crois, extrêmement intéressant. Mais il y a pas, je crois que le Conservatoire
national, il y a Cuba, il y a Canada, il va y avoir l'Inde,
l'école de la Comédie de Saint-Étienne avec CalArts. Donc non, je pense que ça.
Mais ils n'ont pas trop de leçons à nous donner, parce que souvenez-vous que Luc Bondy, paix à son âme, le pauvre, mais une de ses dernières polémiques, ça avait été quand il voulait faire jouer Othello par
Charles Bernet, par Philippe Torreton.
Et quand Thomas Ostermayer était venu nous montrer Othello, c'était aussi un acteur blanc qui jouait Othello. Et je me souviens, je lui avais posé la question, il m'avait quand même répondu en me regardant droit dans les yeux qu'il n'y avait pas d'acteur noir à Berlin. Donc c'était quand même, c'est quand même fou. Donc ils sont pas mieux
les Allemands,
grands européens,
les Anglais
oui.
Effectivement, de ce
oui,
côté-là,
les Anglais, ça, c'est sûr.
La scène anglaise, elle est diverse, et la scène lyrique aussi anglaise, ça se renouvelle et ça s'ouvre de tous les côtés.
Oui, je termine juste en disant que, en tout cas, du côté des élèves, et c'est ce qui me semblait dans les témoignages qu'on voyait dans certains articles, notamment encore une fois avec ce fameux conservatoire, il y avait un désir et un appétit pour cette scène européenne.
Ah oui, bien sûr.
Surtout ça, voilà.
Ouverture de tous les côtés, et de toute façon, c'est ce qu'il faut pour toutes les écoles, idéalement, pas seulement les écoles de théâtre. Mais ça, c'est un autre débat pour avoir dans d'autres émissions, notamment.